Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir.
Et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec vous Odette de l'UFC Que Choisir. Bonjour Odette.
Bonjour Thomas.
Aujourd'hui on va parler d'un sujet, le forfait touristique, c'est bien ça?
C'est ça.
Mais qu'est-ce que le forfait touristique?
Alors le forfait touristique, donc il y a une réglementation spécifique depuis juillet 2018 qui renforce l'information du consommateur sur le contenu des voyages.
D'accord.
Et puis qui prévoit une responsabilité automatique du vendeur. Donc effectivement les vendeurs, les voyagistes n'étaient pas forcément complètement d'accord. Mais,
mais là, pas le choix.
Mais là, voilà, la mesure est passée, la loi est en application depuis le 1er janvier 2018.
Alors du coup, comment est-ce qu'on sait si on est en présence d'un forfait touristique?
Voilà, alors qu'est-ce que c'est qu'un forfait touristique? Donc, il faut déjà la combinaison de différentes prestations pour un même voyage.
D'accord.
Alors, voyage ou séjour dépassant 24 heures ou comprenant une nuitée. Hein, ce n'est pas forcément un séjour long. Ça peut être juste un week-end, ça peut être un forfait touristique. Ces différentes prestations, donc, elles portent sur le transport des passagers, l'hébergement, la location d'un véhicule ou tout autre service, donc place de concert, excursion, visite guidée, soins au spa, etc. Enfin, tout ce qui est autre que les assurances et les navettes.
D'accord.
Donc pour les prestations, il faut qu'il y ait au moins deux prestations pour qu'on ait droit à un forfait touristique. Ce n'est pas forcément toutes les prestations, mais il faut qu'il y en ait plusieurs.
Deux de celles qu'on a citées,
voilà,
juste
tout
avant.
À fait. Ok. Ensuite, il faut un seul vendeur, donc c'est ou une agence ou un site internet, où on va tout acheter au même endroit. Il va proposer la combinaison donc, d'au moins deux services différents. Alors c'est soit le professionnel qui propose ses services, soit le client qui dit ben moi je veux tel service et tel service et qui les choisit. Ça peut être plusieurs vendeurs par internet mais qui ont un lien entre eux, c'est-à-dire que le premier a transmis au second les noms, adresses, coordonnées bancaires et il y a un contrat qui a été conclu après le premier contrat.
D'accord.
Donc là c'est aussi un forfait touristique. Ou alors ça peut être un endroit où il y a plusieurs vendeurs, les différents services sont achetés sur un seul point de vente et choisis par le consommateur qui paye le prix à la fin.
Okay.
Où ils sont proposés, vendus et facturés à un prix tout compris. Donc là, c'est voilà, le voyage tout compris avec un prix total. Où ils sont annoncés, on dit qu'on achète un forfait touristique. C'est écrit dans l'annonce,
écrit
dans le produit. Okay. Donc là, c'est aussi un forfait touristique. Alors, cette réglementation, elle s'applique aussi aux sociétés qui émettent des bons et des coffrets cadeaux.
D'accord.
Voilà, voilà, offrant un séjour touristique.
Donc, les box, etc.
C'est ça, tout à fait. Alors c'est celui qui l'émet, hein, c'est pas le vendeur, hein, c'est pas le bureau de tabac où on achète ou la grande surface, c'est celui qui l'émet,
voilà, c'est celui qui crée la boîte.
Qui crée la boîte, tout à fait. Par contre ça ne s'applique pas ni au voyage d'affaires, ni à la délivrance des billets d'avion, et puis ni aux personnes qui organisent des voyages dans le cadre par exemple d'un comité d'entreprise, d'une association ou autre, donc, ou dans les écoles, associations ou clubs, là ce ne sont pas des professionnels donc ça ne s'applique pas.
D'accord. Alors, quel est l'intérêt, si on a un problème, du forfait touristique?
Alors, l'intérêt, c'est d'abord que la démarche est simplifiée pour le consommateur, puisqu'il n'a qu'un seul interlocuteur, donc qui est le vendeur ou l'organisateur du forfait. Et en cas de difficulté lors du séjour, le préjudice, il va couvrir tous les problèmes. C'est-à-dire qu'il ne va pas devoir s'adresser à plusieurs professionnels, pour l'hébergement, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile. Alors que s'il n'y avait pas de forfait, chaque prestataire répond de ses obligations, c'est-à-dire le transporteur pour le transport, etc.
Ouais, donc faut les contacter un par un et gérer individuellement. Quelles informations doivent m'être fournies avant mon voyage dans le cadre d'un forfait touristique?
Là aussi, c'est quelque chose qui est prévu effectivement par cette loi et qui développe l'information faite aux consommateurs. Donc là, c'est très très encadré. Il y a un certain nombre de choses qui doivent figurer. Donc l'organisateur doit remettre avant la vente un formulaire récapitulant les droits et informations principales.
D'accord.
Donc ce formulaire, il doit prévoir la destination, les itinéraires, la période avec les dates et s'il y a un logement, le nombre de nuitées. Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, donc est-ce que c'est l'avion, le train, le bateau, etc. Les lieux, dates et heures de départ et de retour. La situation et les principales caractéristiques et éventuellement la catégorie touristique de l'hébergement, est-ce que c'est un hôtel 3 étoiles, est-ce que c'est...
D'accord.
Etc. Les repas fournis, repas du soir, repas de midi ou autre. Les visites, excursions et autres services qui sont compris dans le prix. Si les services sont fournis en tant que membre d'un groupe, si oui, la taille du groupe, c'est-à-dire que c'est un groupe, donc c'est un voyage de 15 personnes.
Voilà. Okay.
La langue dans laquelle les services seront fournis, donc ça peut être très important aussi. Alors c'est les services, ça peut être les visites, mais ça peut être aussi la personne qui va être à l'accueil à l'aéroport, on saura quelle langue elle parle.
Tout à fait.
L'information sur l'accessibilité du voyage ou de séjour aux personnes à mobilité réduite. et si le consommateur le demande, des informations précises sur l'adéquation du voyage aux besoins du voyageur. Par exemple, quelqu'un qui a un certain âge ou qui est pas très, voilà, qui veut savoir si effectivement ce voyage répond à sa condition physique ou autre.
D'accord.
Alors, il doit y avoir aussi le nom et l'adresse de tous les professionnels concernés par la vente du voyage, le prix total qui inclut les taxes, éventuellement les frais et les autres coûts supplémentaires.
D'accord.
Les modalités de paiement, le nombre de minimum de personnes nécessaires pour la réalisation du forfait, hein, parce que si c'était un forfait, on vous dirait, ben non, il n'y a pas le nombre de personnes, donc le voyage peut être annulé. Le voyagiste peut dire, ben, j'en devais en avoir 15 et j'en ai que 3.
Mais ça l'a stipulé avant, du coup.
Voilà. Les informations sur les documents nécessaires pour le voyage, est-ce qu'il faut un passeport, est-ce qu'il faut des visas, s'il faut des visas, quel est le délai d'obtention des visas pour qu'on puisse anticiper et ne pas se retrouver juste au dernier moment sans avoir les papiers adéquats. Les conditions de résiliation et de rétractation. Et enfin, les informations sur les assurances obligatoires et facultatives. D'accord. Donc, c'est vraiment un dossier qui est très, très, très complet. Ça fait généralement, quand on a des dossiers, une bonne quinzaine de pages.
Ah oui, quand même.
Que bien souvent on ne lit pas quand tout va bien.
Et pourtant, c'est bien de savoir qu'on a bien toutes les infos pour pouvoir en bénéficier. Quelle est la législation concernant l'annulation du voyage ou du séjour ?
Alors, un forfait touristique, donc ça peut être annulé. Ça, c'est un droit. Il peut y avoir des frais d'annulation. Et alors, s'il y a des frais, donc le contrat va le prévoir, mais dans ce cas-là, ils doivent être appropriés, justifiables et raisonnables.
D'accord.
C'est-à-dire que je ne peux pas arbitrairement dire c'est 50% de frais d'annulation. Le consommateur peut annuler sans frais son voyage s'il y a plusieurs circonstances. Donc si il y a une modification d'un élément essentiel avant le début, c'est-à-dire qu'il devait prendre l'avion et en fait il prend le train.
Ouais. Voilà.
Si la hausse du prix est supérieure à 8%,
hein,
le voyage a augmenté pour des raisons dont on verra tout à l'heure.
Ouais.
S'il y a une non-conformité d'un service qui perturbe considérablement le voyage, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a changé.
Ouais. Finalement, c'est pas dans un hôtel, mais dans une chambre d'hôte, quoi.
C'est ça.
Ok.
Et puis, enfin, si le voyageur décide que des circonstances exceptionnelles risquent d'affecter le déroulement de son voyage, alors ça peut être un événement climatique majeur, il y a une tornade qui est prévue, etc., une éruption volcanique, un tremblement de terre, une épidémie, etc. Dans ce cas-là, il peut annuler sans frais sa réservation.
D'accord. Oui, c'est important de le savoir.
C'est important de le savoir, mais il faut effectivement que ça impacte le voyage.
Oui.
Qu'on a eu les cas où il y avait des problèmes, par exemple au Maroc, avec le tremblement de terre. Si ce n'était pas dans le lieu qui a été détruit, les voyages n'ont pas été annulés.
Oui, je comprends. Ouais.
L'organisateur peut aussi annuler le séjour s'il n'a pas assez de participants.
D'accord.
Alors, si c'était un voyage pour 30 et qu'il n'en a que 15, il peut annuler. Alors là, il y a des délais par contre qui s'imposent à lui. Donc c'est 20 jours avant le départ pour les séjours de plus de 6 jours. 7 jours si c'est pour ceux de 2 à 6 jours et 48 heures pour ceux inférieurs à 2 jours. Et enfin, l'organisateur ou le vendeur peut annuler un séjour s'il est empêché d'exécuter le contrat pour des circonstances exceptionnelles et inévitables, à condition qu'il notifie la résolution au voyageur dans les meilleurs délais. Donc c'est quelque chose qui s'impose à lui et que
il ne peut pas faire autrement.
Il faut
qu'il informe rapidement les voyageurs. Ouais. Que faire si le voyagiste décide de modifier le prix du voyage ?
Alors, il peut effectivement le faire, tout à fait. Là où c'est possible, alors, si le contrat le prévoit,
si le contrat ne le prévoit pas,
il ne peut pas, mais généralement, il le prévoit.
D'accord.
Et s'il prévoit également une réduction du prix, c'est-à-dire que s'il peut l'augmenter, dans circonstances similaires, il le baisserait si devait se faire. Cette hausse doit être la conséquence directe, alors, d'une hausse ou baisse, dans ce cas-là, des coûts du carburant, des taxes et redevances, exemple taxes de séjour, taxes d'atterrissage dans un aéroport, les taux de change, etc. Donc c'est quand même bien encadré s'il y a des choses qui vont impacter et qui ne pouvaient pas prévoir. Et enfin, le changement doit être notifié au consommateur avec la justification au plus tard 20 jours avant le départ.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il doit effectivement justifier, j'ai telle taxe qui augmente de tant de pourcents, ça fait tant de plus, donc ça fait une augmentation de... Voilà.
Oui, ça doit être bien justifié en tout cas. Et il y a des conséquences ?
Alors là, les conséquences, effectivement, le voyagiste va donc modifier le prix du voyage. Si la hausse est inférieure à 8%, le consommateur ne peut rien faire.
D'accord.
Il est obligé d'accepter, puisque c'était prévu dans le contrat. Si la hausse est supérieure à 8%, le consommateur, soit il l'accepte, soit il la refuse, soit il annule le voyage sans frais dans le délai accordé par le professionnel. C'est-à-dire que le professionnel lui dit, ben voilà, il y a une augmentation de plus de 8%, si vous ne souhaitez pas continuer le voyage, vous devez nous faire savoir avant telle date, etc.
Oui.
Et à ce moment-là, il doit être remboursé dans les 14 jours qui suivent l'annulation.
D'accord, ouais, donc c'est important de bien le savoir.
Tout
ça
à
aussi.
Fait.
Et donc on le rappelle, c'est au-delà de 8% d'augmentation qu'on peut annuler. Ouais. Quels sont mes droits en cas de modification du voyage par l'opérateur ?
Alors, il peut y avoir des modifications mineures, c'est-à-dire des détails, bon, si elles sont prévues dans le contrat. Le client doit toujours être informé de manière claire, compréhensible, apparente et sur support durable, c'est-à-dire pas par téléphone, hein, faut que ce soit mail ou courrier. Y a des modifications, les modifications d'éléments essentiels doivent être la conséquence d'un événement extérieur qui s'impose à l'organisateur, c'est-à-dire c'est pas lui qui, il n'est pas volontaire,
enfin, c'est pas là,
il n'est pas responsable, et qui rend impossible le respect des éléments du contrat.
D'accord.
C'est-à-dire, c'est pas tout d'un coup, j'ai envie de changer d'hôtel, etc. Ouais. Il faut vraiment que...
L'hôtel a brûlé, il y a eu un dégât des eaux, on ne peut pas y aller, quoi.
Et dans ce cas, l'organisateur doit rapidement informer le client des modifications proposées, des répercussions éventuelles sur le prix, et le consommateur peut annuler sans frais.
D'accord. Alors, une autre question, est-ce qu'on peut céder son voyage à un tiers ? J'avais prévu le voyage, finalement, je l'offre à mon frère.
Eh bien oui.
Ah oui.
Tout à fait. La cession est possible. Alors, l'organisateur n'a pas à dire oui, je suis d'accord ou non. Par contre, il doit être mis au courant, évidemment. Alors, par contre, l'acquéreur donc, qui va bénéficier du voyage, il doit satisfaire aux conditions éventuelles du contrat. Par exemple, si c'était un majeur qui avait pris le... Il faut que ce soit aussi un majeur, on ne peut pas le faire à un mineur.
Bien sûr.
Il faut bien entendu informer l'organisateur par tout moyen permettant d'avoir un accusé réception pour être sûr qu'il a bien été...
Notifié, informé. Ouais.
Voilà, et cet accusé réception doit être obtenu au plus tard 7 jours avant le début du voyage.
D'accord. Donc,
comme ça, on est sûr que c'est dans l'ordre, on a bien signalé et on sait qu'il l'a eu. Le contrat peut prévoir des frais en cas de cession.
D'accord.
Donc, voilà, les frais. Alors, dans ce cas-là, parce qu'il peut y avoir des choses qui doivent être changées. Donc, par exemple, changer un billet d'avion.
Oui, oui. Hein,
quand on change le nom, etc., il y a des frais.
Ouais.
Dans ce cas-là, quand il y a des frais, donc le cédant et l'acquéreur sont solidaires du paiement. Alors après, c'est à eux à s'arranger entre eux.
D'accord.
Et bon, s'ils ne sont pas d'accord, c'est moitié-moitié.
Ok.
Et puis l'organisateur doit informer effectivement le cédant du montant des frais éventuels, c'est-à-dire quand il lui dit je vais céder mon voyage, il dit ok mais ça va vous coûter, etc. Donc il doit être au courant avant de faire la cession de ce que ça implique. Et puis donc les frais, donc quand il y en a, ils ne doivent pas être supérieurs à ceux effectivement supportés par l'organisateur, ils doivent être justifiés. Donc comme je disais, ça peut être effectivement un changement de nom sur un billet d'avion, c'est effectivement payant.
Ça ne peut pas être arbitraire, vous le cédez et on vous fait
5%.
Un forfait.
Ça doit vraiment
être
justifié.
C'est parce que ça correspond à des frais qui sont derrière. Ok, très bien. Que faire face à une non-conformité ou à un problème d'exécution du voyage ?
Alors tout dépend. Si la prestation du contrat n'est pas respectée... Bon, la réglementation, par exemple une excursion annulée, un hôtel d'une gamme inférieure, il n'y avait plus de place, etc. La réglementation oblige le voyagiste à y remédier. Donc, ils doivent tout faire pour, effectivement, remédier à la prestation.
Vous aviez un hôtel 4 étoiles, il doit retrouver un hôtel 4 étoiles.
En principe, oui.
D'accord.
Donc, dans ce cas, le consommateur, donc, il arrive, il se rend compte que la prestation n'est pas celle qui était prévue. Il doit informer dans les meilleurs délais l'organisateur. Si possible, par mail ou par écrit pour avoir la preuve. Mais bon, quand on est à l'étranger, quelquefois ça peut être par téléphone. Enfin, il doit systématiquement, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, le signaler. Et ne pas attendre de rentrer et puis de dire finalement il y a ça qui n'allait pas, l'hôtel il n'était pas, etc.
D'accord, il faut le faire tout de suite. Ouais.
Oui, si c'est une non-conformité mineure, c'est-à-dire c'est pas grave, le professionnel doit remédier dans la mesure du possible. Sinon, s'il ne peut pas y remédier, le voyageur peut demander une réduction du prix.
D'accord.
Et puis s'il a subi des dommages, c'est-à-dire que ça lui a coûté quelque chose, il peut demander effectivement le remboursement, les dommages et intérêts. Et si par hasard le professionnel n'a pas remédié au problème, le voyageur peut y remédier, c'est-à-dire que par exemple il ne peut pas habiter l'hôtel parce que la chambre est insalubre, il n'y en a pas qui est à disposition, qu'il en trouve une à ce moment-là, il va y remédier, il va se faire rembourser effectivement les sommes engagées.
D'accord, ça c'est important de le savoir aussi.
Tout à fait.
On n'est pas forcément au courant qu'on peut trouver une solution.
Voilà, il ne faut pas le faire à la légère, il faut effectivement s'assurer qu'il y avait réellement un problème.
Ouais,
C'est pas toujours.
Oui, c'est pas toujours très clair.
C'est pas toujours très clair. Si la non-conformité est importante, donc le vendeur doit proposer des prestations de substitution qui doivent être de qualité égale, voire supérieure, mais pas inférieure. Sinon, il doit réduire le prix. Et le consommateur peut refuser les prestations si elles ne sont pas comparables ou si la réduction de prix est insuffisante.
D'accord.
Et enfin, si le séjour est considérablement perturbé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui changent, le consommateur peut aussi annuler le contrat, même s'il est en cours d'exécution.
D'accord.
Ça fait une semaine que je suis à l'île Maurice et ça va.
J'avais prévu d'y rester 15 jours. Qu'est-ce qu'on fait ? On revient dans ces cas-là ?
Eh bien voilà. Il y a quelque chose qui a changé, donc je ne sais pas, l'hôtel n'est plus possible.
Ouais.
Alors effectivement, le consommateur peut annuler le contrat sans frais et obtenir des vols retours sans frais supplémentaires. D'accord. C'est-à-dire que l'organisateur doit lui fournir les billets d'avion pour qu'il rentre.
D'accord. Donc ça, on peut le faire.
Voilà, tout à fait. Bon, faudra justifier qu'il y avait effectivement que le séjour était perturbé.
Et j'ai bien compris, et j'imagine que c'est pas toujours très simple, que ça peut être vite litigieux.
Ça peut être, voilà, tout à fait. On a effectivement tous les ans un peu des litiges. Plus ou moins justifié.
Ouais.
Et quelquefois, on se dit bon.
Et alors, admettons justement que le litige soit justifié, il persiste. Après le voyage, qui peut nous aider, qui on peut contacter
Effectivement contacter l'organisateur du voyage, celui à qui on l'a acheté. Il faut constituer un dossier, donc il faut effectivement avoir la description de tous les problèmes, des preuves. Donc il faut prendre des photos, il faut avoir tout le plus de preuves possible, des témoignages, etc. Il faut chiffrer le préjudice. Préjudice financier, mais aussi éventuellement préjudice moral, parce que quand on va en vacances, c'est pas pour prendre la tête pour des détails pratiques, etc. Évidemment. Donc voilà, il peut y avoir aussi un préjudice moral. Donc envoyer tout ça à l'organisateur, donc avec un dossier le plus complet possible, en lettre recommandée avec accusé réception.
Très bien.
Après, on peut éventuellement saisir aussi le médiateur tourisme et voyage. Mmh. Et puis, on peut aussi venir nous contacter.
J'allais vous dire, et on peut évidemment venir voir UFC Que Choisir. Comment est-ce qu'on vous contacte si on a besoin de plus d'informations, de renseignements ou d'une aide particulière sur un dossier suite à un forfait voyage?
Alors, on peut trouver déjà tous les renseignements que j'ai donnés là. Ils sont aussi sur le site quechoisir.org. On peut trouver des renseignements sur les voyages. Après, pour nous contacter, donc effectivement, on peut aller sur notre site internet nancy.ufcquechoisir.fr, où là, on peut soumettre un litige en ligne. On peut prendre un rendez-vous éventuellement.
Très bien.
Ou sinon, on peut aussi prendre un rendez-vous par téléphone.
Par téléphone. Merci beaucoup, Odette, pour toutes ces informations. Si vous n'avez entendu qu'une partie de cette chronique, que vous voulez la réécouter en intégralité, évidemment, vous le faites sur le site internet www.rcn-radio.org. Merci, Odette.
Merci, Thomas.
Et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous.
Tout à fait.
À bientôt.
À bientôt.
C'était le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir.